Laudetur Jesus Christus.
L'enfance de Jésus évoquée lors de l'audience générale ce matin. François qui est également revenu sur son voyage en Corse et le cyclone dévastateur à Mayotte. Les détails juste après les titres. Au lendemain de l'assassinat qui a tué le général Kirillov à Moscou, une arrestation a eu lieu ce matin. Une personne d'Ouzbékistan recrutée par les services spéciaux ukrainiens. Pas de sortie de crise en Géorgie. Les députés ont élu un nouveau président, mais la présidente sortante ne le reconnaît pas et déplore la non-réaction de l'Union européenne. Et enfin, la Syrie, face au retour des réfugiés, une dizaine de jours après la chute de Bachar al-Assad, près de 100 000 exilés ont rejoint leur pays. Reportage à suivre dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau cycle de catéchèses ouvert ce matin par le pape François pour l'audience générale sur le thème « Jésus-Christ, notre espérance ». Pour cette dernière audience avant Noël, le Saint-Père est revenu sur la généalogie de Jésus, invitant à réveiller la mémoire reconnaissante envers nos ancêtres. Les détails avec Myriam Sanduno.
I Vangeli dell'infanzia di Gesù raccontano il concepimento virginale di Gesù e la sua nascita dal grembo di Maria.
Si les évangiles de l'enfance racontent la conception virginale de Jésus et sa naissance dans le sein de Marie, ils rappellent également la paternité légale de Joseph, a dit le pape. La généalogie de Jésus, mise en évidence par François, est constituée d'une histoire vraie, où l'on souligne certes le péché du roi David, mais tout se termine et s'épanouit en Marie, de l'épouse de Joseph naît le Christ. Dans l'histoire de la mère de l'Église, a fait comprendre François, ce n'est plus la créature humaine qui est protagoniste de la génération, mais Dieu lui-même.
La vicenda non è più la creatura umana protagonista, ma Dio stesso.
Jésus est fils de David, greffé par Joseph dans cette dynastie, et destiné à être le Messie d'Israël, mais il est aussi fils d'Abraham et de femmes étrangères, destiné donc à être la lumière des nations et le sauveur du monde, a affirmé le pape. Pour conclure, François a exhorté au réveil de la mémoire reconnaissante envers nos ancêtres.
Svegliamo in noi la memoria grata nei confronti dei nostri antenati.
Myriam Sanduno, et en saluant les pèlerins de langue française, François a eu un mot pour les victimes du cyclone dévastateur à Mayotte, c'était samedi dernier. Que Dieu accorde le repos à ceux qui ont perdu la vie, l'assistance nécessaire à ceux qui sont dans le besoin et le réconfort aux familles qui ont été frappées, a-t-il dit. Des centaines de personnes sont portées disparues à Mayotte. Le pape qui est aussi brièvement revenu sur son voyage en Corse de dimanche, où il a été accueilli chaleureusement, dit-il, ajoutant avoir été particulièrement frappé par la ferveur des gens chez qui la foi n'est pas un fait privé. Autre actualité au Vatican, un décret reconnaît la canonisation équipollente des carmélites déchaussées de Compiègne. Déjà bienheureuse, sœur Thérèse de Saint-Augustin et ses 15 compagnes, martyrs en haine de la foi, furent guillotinées en 1794 en pleine Révolution française. Elles vont donc être inscrites au martyrologue de l'Église catholique. Parmi les autres décrets approuvés ce matin par le Saint-Père, le fidèle laïc français Pierre Goursat, né en 1914 et mort en 1991, voit reconnu ses vertus héroïques et deviendra vénérable. Moscou a annoncé ce matin l'arrestation de l'assassin présumé du général Kirillov, mort hier dans l'explosion d'une trottinette piégée à Moscou. Il s'agit d'un Ouzbek qui a reconnu avoir été recruté par les services spéciaux ukrainiens lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Les détails de Jean-Didier Revoin.
Le Kremlin s'est félicité ce matin de la rapidité du travail des enquêteurs et pour son porte-parole Dmitri Peskov, cette arrestation justifie pleinement les opérations militaires menées par Moscou contre ce qu'il a qualifié de régime nazi de Kiev. Des propos basés sur les aveux du suspect dont on ne connaît pas l'identité et qui ont été diffusés dans une vidéo par le FSB. Elle met en évidence une opération complexe. L'accusé aurait obtenu 100 000 dollars et des garanties de pouvoir émigrer en Europe pour déposer des explosifs sur une trottinette placée à l'entrée du bâtiment où vivait le général. Une caméra disposée dans une voiture louée et garée à proximité permettait aux organisateurs de l'attentat de suivre en temps réel, depuis la ville de Dnipro en Ukraine, les allées et venues. Ils auraient alors actionné les explosifs au moment où le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique et son assistant sont sortis de l'immeuble. L'accusé risque des peines allant jusqu'à la réclusion à vie pour assassinat, attentat et trafic d'armes, ont encore fait savoir les services de sécurité. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, rencontrera ce soir à Bruxelles le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui veut accélérer les envois d'armes des Européens vers l'Ukraine et évoque désormais l'hypothèse de négociations de paix. Mais l'agenda est serré pour l'Ukraine. Il s'agit d'agir avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. En janvier, le futur président américain qui pourrait suspendre les aides militaires à l'Ukraine. Et sur le terrain, la Russie revendique aujourd'hui la prise de deux nouveaux villages dans l'Est. Chaque jour, les forces de Kiev perdent du terrain. Les troupes russes restent plus nombreuses et mieux armées, renforcées par des soldats de Corée du Nord. La présidente géorgienne s'impatiente devant le peu d'implication à ses yeux de l'Union européenne dans la crise que traverse son pays. Salomé Zourabichvili l'a redit ce matin devant les eurodéputés réunis à Strasbourg. Selon elle, ce sont les valeurs européennes qui sont actuellement menacées à travers ce que vit la Géorgie. Olivier Bonnel.
Oui Marine, les Géorgiens attendent toujours des mesures fortes de Bruxelles et de Washington alors que les drapeaux européens sont interdits à Tbilissi, a regretté ce matin Salomé Zourabichvili. J'espère que nous n'aurons pas à attendre qu'une crise plus profonde survienne pour que l'Europe agisse, a-t-elle précisé, alors que depuis fin novembre, les manifestations pro-européennes sont quotidiennes dans les rues de Tbilissi contre le parti au pouvoir Rêve géorgien, connu pour ses sympathies russes. Les Géorgiens qui attendent de l'Europe qu'elle se mobilise pour que nous puissions défendre ensemble l'Europe et ses valeurs, a encore martelé la présidente. La suspension du processus de rapprochement de Tbilissi de l'Union européenne par le parti au pouvoir a coupé en deux la Géorgie. Samedi dernier, un collège électoral favorable au parti Rêve géorgien a désigné comme nouveau président le loyaliste d'extrême droite Mikhail Kalechvili, lors d'un vote boycotté par l'opposition et jugé illégal par Salomé Zourabichvili. La présidente géorgienne ne cesse de demander un renforcement des sanctions qui visent plusieurs responsables géorgiens. Le département d'État américain Marine a émis des restrictions de visa qui concernent une vingtaine de personnes, parmi lesquelles des ministres en exercice et des parlementaires en Géorgie.
Merci Olivier Bonnel. C'était une des images marquantes après la chute de Bachar al-Assad en Syrie, les files de voitures quittant le Liban ou la Turquie après une dizaine d'années d'exil. En cette journée internationale des migrants, l'ONU rappelle que ces personnes ont évidemment le droit de rentrer chez eux en Syrie, mais avertit, les infrastructures syriennes ne peuvent pas faire face à un retour à grande échelle. En 13 ans de guerre, la moitié de la population syrienne a été déplacée dans le pays et des millions ont dû s'exiler à l'étranger. Nous prenons maintenant la direction d'un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Nés sur place, certains enfants n'ont jamais fouler la terre syrienne. Le reportage de Mohamed Erami.
Depuis 13 ans, des enfants syriens grandissent dans les camps de réfugiés en Jordanie. Ils n'ont connu que la vie de réfugiés, aucun souvenir de leur pays, juste des récits de leurs parents. Aujourd'hui, avec les changements en Syrie, le retour semble inévitable. Mais pour ces enfants, c'est un dilemme. Un pays inconnu, un quotidien difficile. Zohour Adnan, 10 ans, exprime ce sentiment d'incertitude.
Je suis syrienne et j'aime la Syrie, mais je ne sais pas où nous allons vivre car papa et maman m'ont dit que notre maison à Homs a été détruite. Je ne sais pas non plus comment seront les écoles là-bas.
Les parents ont essayé d'inculquer l'amour de la Syrie à leurs enfants, mais beaucoup d'entre eux ont peur de la réaction de leurs enfants face au retour, comme le raconte Naha, mère de 3 enfants née à Za'atari.
Au final, la Syrie est notre pays et nous devons y retourner. Mes enfants s'adapteront certainement. C'est vrai que cela prendra beaucoup de temps, mais vivre dans notre patrie est bien mieux que de rester réfugié.
Depuis 2011, plus de 200 000 naissances ont eu lieu parmi les réfugiés syriens en Jordanie. Le plus vieux d'entre eux a aujourd'hui 13 ans. Mohamed Erami, Amman pour Radio Vatican.
2024 se termine avec de mauvais chiffres pour la planète. Jamais la demande mondiale en charbon n'avait été aussi élevée. Un tiers du charbon consommé dans le monde l'est en Chine, suivi de l'Inde, de l'Indonésie ou du Vietnam. Déjà l'année dernière, la production et la consommation de charbon avaient battu des records. Tout comme, et c'est évidemment lié, les températures moyennes sur Terre. 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Merci de votre fidélité. L'actualité revient tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.